Right.
Je pense que tout le monde est bien détendu. Ok, c'est parfait.
C'est marrant, il a mis Scatman, mais il a même pas mis la plus connue de Scatman, quoi. Il a mis une Scatman nichée.
Ouais, c'est.
T'as même pas mis pipa pa 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 pa.
Pour les connaisseurs.
C'est pour les vrais scatos.
Exactement. Les vrais scatos.
C'est pour les vrais scatos.
Salut à tous. Salut à toi, petit cher auditeur. On est réunis autour de cette table pour une émission exceptionnel, inédite, hein, comme chaque épisode un peu de la boîte à camembert, j'ai l'impression à chaque fois on renouvelle d'inventivité et là on n'a pas lésiné sur les moyens parce qu'on a fait venir deux gars de France.
Deux gars de France, tout à fait. Donc d'habitude on parle de sujet d'expat, là personne n'a prévu le sujet d'expat.
Non, c'est la boîte à camembert French, c'est ça.
C'est la boîte.
On a mis des trucs dedans.
Vous mettez ce que vous voulez derrière la boîte de nuit, la boîte de café.
Alors on est tous les quatre, je suis accompagné de mon F comme d'habitude.
Voilà, bonjour. Il faut savoir qu'on est quatre,
ouais.
Il y a le E, et donc le E qui, bon, je vais révéler aujourd'hui un grand secret qui s'appelle Étienne en vrai.
Non.
Et là, en fait, on est quatre personnes, il y a trois
issus de la même dynastie, de la même lignée.
La dynastie.
De la même lignée, des sang pur.
Des sang de Bourbe.
100%. Des sang de Bourbe.
Alors, on veut entendre vos prénoms, votre place dans la famille.
Adrien, l'aîné de la fratrie. Et moi, François, cadet de la famille.
Merci les gars d'être avec nous déjà. Ah, merci d'avoir fait des kilomètres.
C'est un plaisir.
Pour pouvoir vous réunir autour de cette émission. Et puis, on commençait à parler des Canadiens qu'on a vus la semaine dernière, parce qu'évidemment, les gars sont en vacances ici. On commençait à parler des Canadiens.
Alors, juste pour préciser, parce qu'il y a des auditeurs français, quand on dit ils ont vu des Canadiens, vous allez dire oui, ils sont baladés dans la rue, ils sont au Canada. Non, les Canadiens, c'est l'équipe de hockey en fait. Donc, il faut quand même recontextualiser parce que tu dis à des gens qui ne connaissent pas l'équipe de hockey, ouais, ils ont vu des Canadiens. Ils vont dire, ah, no shit, ils sont au Canada.
Ouais. Waouh.
Est-ce qu'on ne dit pas les Canadiens?
Les Canadiens.
Les Canadiens. Bon, en tout cas, on a vu les Canadiens la semaine dernière. On a mangé des roteux. Alors, les roteux, c'est quoi?
C'est pas des petits hot dogs là?
Bah ouais, c'est des. Au Québec, on appelle ça donc des roteux.
Jamais entendu ça.
Ah,
t'as jamais entendu ça? Un bon roteux.
J'ai entendu des rôtis. Est-ce que c'est des rôtis?
Ouais, des rôtis, c'est le pain. C'est mais justement, en fait, avant de déblatérer là-dessus, on va lancer un petit jingle pour parler, ni plus ni moins, de Québec versus France. Qu'est-ce que c'est la culture culinaire? C'est parti, vous n'y attendez pas. C'est une émission boîte-boîte.
Un petit crèche de tabarnak. Des gros fumeurs, souvent, c'est des gens qui boivent du vin, qui parlent fort.
Où est-ce qu'il est, le petit bonhomme?
Excepté une fois au chef.
Quand on commence à connaître ces Français-là, ben, la plupart du temps, c'est pris
mais oui, là, parce qu'en fait, il y a beaucoup de différences culinaires entre la France et le Québec, le saviez-vous? Donc, la différence culture culinaire Québec-France, quand on va en France, en fait, on aime faire un truc, c'est de retourner dans les supermarchés. On y va comme si on y allait au musée. T'sais. Genre, on a vraiment ce truc de.
C'est vrai
on va au musée.
Un Carrefour, quand tu l'as pas vu depuis longtemps, t'es en mode waouh. En vrai, ça ressemble à ça, le président. Ça coûte comme ça.
Ça coûte aussi peu cher.
Oh non.
On voit évidemment toutes ces différences là. Et en fait, comment parler de la culture québécoise sans parler de cuisine, quoi. J'ai envie de te dire. Alors les gars, vous avez kiffé sur quoi pendant vos 10 jours de vacances? C'était quoi les meilleurs produits que
interdit de dire la cuisine.
Interdit de dire la poutine.
En vrai, genre, mes frangins, ils m'ont fait découvrir une petite spécialité, là. C'est des saucisses enroulées de... comme un Wellington de bœuf, si tu veux. Genre, donc...
Il est trop précis dans les termes. Les termes
utilisent les vrais termes.
Les termes sont beaucoup trop gastro pour décrire ça.
Les termes sont savants.
Tu sais ce que c'est?
C'est un pogo.
Oui. Donc, c'est un rôti, c'est un rôti, c'est un... Oui, c'est un pogo. je ne connaissais pas ça. C'est une saucisse de Strasbourg. Ou de Cherbourg.
Le mec, il a comparé un pogo avec un Wellington. C'est comme si t'allais voir une pute, tu lui dis, mais t'es princesse Diane.
Et ouais, parce que pour redonner à la culture québécoise ses lettres de noblesse.
Je crois pas que ce soit eux qui l'aient inventé non plus, le pogo.
Le pogo?
La dernière fois, j'ai parlé à une Québécoise et je lui disais, ouais, le pogo et tout, ah, trop bizarre et tout. Elle me disait, comment ça, vous avez pas ça le pogo en France? Tout le monde a le pogo. Pour elle, c'était genre, c'est pas possible.
C'est
en Chine,
c'est une
religion. Chez eux, c'est une religion.
Un vrai état d'esprit.
C'est grave de la junk food.
J'ai adoré ça, donc j'en ai pas honte. Mais je pense que c'est un putain de produit qui pourrait arriver sur les marchés français d'ici peu. Quoi.
Ah bah ouais, tu vois.
D'ici peu, mais brandé le Wellington de saucisse. La saucisse Wellington.
Mais en si bâtonnet. On l'appelle comme ça en France.
Bâtonnet de
ça
saucisse
va
Wellington.
Bâtonnet. En vrai, moi, ce que j'ai le plus kiffé, bah, c'est le. Hormis la petite cuisine qu'on s'est faite ensemble, là, qui n'était pas mauvaise, ma foi, c'est quand même la petite smoke meat là, de chez Schwartz. Hein. À chaque fois que je viens à Montréal, je bouffe ça. Et je dois dire que c'est plutôt bien réussi comme truc. Ouais, pour moi, c'est ça, pour l'instant, le best. Quoi.
La petite smoke meat.
Bien sûr, ouais. Et puis, bien sûr, le burger de chez Five Guys, que moi, je trouve juste mortel. Voilà.
Bien juteux.
Ce n'est pas des spécialités d'ici en tant que telles, tu vois. Peut-être la smoke meat, quand même, tu vois. Mais en soi, je n'ai pas de gros avis sur la gastronomie
on dirait que tes frères ils veulent pas dire la gastronomie canadienne c'est de la merde.
Et ça l'est vraiment du coup les gars ou quoi?
Bah,
vous pouvez l'affirmer après 7 ans passés ici.
Disons que bah, au niveau de la création culinaire, après je pense que les Québécois seront d'accord pour dire ça avec nous, c'est bien parce qu'on n'en invite pas pour ce genre de sujet, pour être sûr de dire la vérité,
on peut bien
notre vérité.
Moi pour moi la bouffe à Montréal est bonne, tu peux trouver des bons restos, t'as des bons trucs, je trouve le patrimoine culinaire est à chier, tu vois.
La poutine,
le pâté chinois.
Le pudding chômeur.
Le pudding chômeur, ça va.
Les cretons. Je pense même pas que ça soit québécois. Mais je sais pas, ouais. En fait, tu vois. Okay. On n'a pas trop investigué là-dessus, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à la différence de nos pâtisseries françaises, putain, les gars, mais c'est vraiment très euro-centré, très
France-centré.
Est-ce qu'on va faire un peu dans le chauvinisme là?
Ah ouais,
c'est vrai, c'est genre, tu regardes
c'est tellement bon.
Les gâteaux.
C'est un podcast de colons, frérot. C'est un podcast de colons, on vient coloniser. Non, mais les valeurs de la France, on va les instaurer.
C'est ça.
Oh, pop, réveillez-vous, les gars.
Je lisais sur un blog tantôt que il y avait beaucoup de Français en fait qui arrivaient, tu sais, genre dans des parties staff, des potlucks, comme on appelle ici. Donc tout le monde rapporte son petit truc à manger de chez soi, tu vois. Il s'agit donc de faire une fête où chacun rapporte un plat en fait à manger. Tu sais, genre, ça se fait aussi en France, mais on n'a juste pas donné de nom à ça.
Ah ouais.
Ça s'appelle
jamais fait en France, moi.
Nous, ça fait partie de la...
On appelle ça un repas de rat.
On appelle ça une petite grignotine comme ça. On se fait une petite grignotine comme ça. Ok.
J'ai
ramené mon bœuf Wellington.
Ah oui, mais tu vois, ça se fait pas dans le même contexte. Parce qu'un potluck, je trouve, ça se fait beaucoup au bureau, au boulot.
Mais c'est ça, beaucoup au bureau. Sur les forums internet, les gens disaient quand je suis arrivé avec mon gâteau, tu sais, machin, ou ma salade de riz. Personne n'en a mangé, quoi. Parce que c'était des trucs soit pas très jolis esthétiquement, tu vois. En fait, quand on parle de joli, c'est propre à chacun. Mais ici, gâteau, il doit être glacé, max de sucre, max de couleur, tu vois. Ça doit être le plus pétant. Ouais. Genre, il doit vraiment... Et en fait, ça se repère aussi dans le packaging des produits qu'on a ici, tu vois. La plupart du temps, c'est très coloré. Les Eggos, les machins, c'est jaune, flashy. La marque distributeur qui fait fureur, c'est sans nom, no name. Mais juste le branding, c'est sans nom, marshmallow. Voilà, marshmallow, that's it. Bon, il y a deux, trois indications sur le produit. Mais
après, frérot, je pense que tu as été un peu mauvais parce que moi, mon premier potluck, tu sais ce que je l'aurais ramené? Des gougères, gros. Tu vois ce que c'est?
Des gougères, mais non, mais c'est...
C'est des choux au comté, je les avais fait moi-même.
Des choux au comté?
Ouais.
Des petits choux de Bruxelles, genre?
Non, des choux comme des choux pâtissiers, okay. Au comté salé, tu vois. Et je leur ai fait ça, gros.
T'as fait ça toi-même?
Gros, ça a duré 2 secondes, ils ont tout bouffé.
Ouais, j'ai sûr. Moi-même. Mais en même temps, ça, c'est bon.
Je les ai défoncés, gros. Ouais, mais toi, tu ramènes une vieille salade de riz. Fais un effort, t'es français.
Salade de riz.
Ce podcast, c'est le podcast de la colonisation.
Tu remarqueras, okay, ça.
On est fiers d'être français, on leur fait des repas qui prouvent notre... On peut pas dire, oh, ils ont pas de patrimoine culinaire, et après, tu leur fais une salade de riz, on est qui? On est flunch? Arrête!
Mais c'est à volonté! J'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup!
J'ai 4 kilos de salade de riz!
Oh, personne veut en manger, c'est pas grave, j'en aurais pendant 2 mois. Merci d'avoir participé à mes frais.
Bon. Ça arrive dans un pays, bon après, genre, ça reste un pays très européen et tout ça, mais il y a quand même énormément de trucs qu'on n'a pas chez nous en France, surtout en ville de province. Et genre, pour moi, c'est trop la fiesta. Tu rentres dans un dépanneur, tu rentres dans un supermarché. C'est la caserne d'Alibaba, quoi, tu vois, genre les paquets de chips, les paquets de gâteaux.
Ouais.
Moi, je kiffe, tu vois. Mais même des fois, j'achète pas juste pour regarder. Je fais... Mais non, pour
que le vrai.
Et du coup, je disais tout à l'heure, on marchait dans la rue et je faisais part au gars de mon impression. C'est que j'aime bien ce truc-là à Montréal, c'est que les dépanneurs, ils se ressemblent pas tous et en même temps,
ouais, c'est
toujours un peu la même configuration. Mais chacun a quand même un petit état d'esprit. T'en as qui sont un peu plus gigos que d'autres. D'autres, ouais, c'est des repères. D'autres, c'est des trucs un peu complètement lost et tout dans un quartier paumé. Ouais. Mais, et du coup, je trouve que c'est un peu comme des phares dans la nuit, les gars. Tu vois. Et j'imagine quand t'es foncé dans Montréal, tu vois, voilà, que tu trouves un truc comme ça pour t'acheter une petite grignotine avec tes copains. Et bah, c'est cool, quoi. Putain. Moi, je trouve ça génial. Et voilà, des trucs ouverts toute la night comme ça, je trouve ça top. Continuez comme ça. Big up à tous les dépanneurs qui vendent de la bière fraîche.
Mais tu sais
à
quoi
toute heure.
Parce que le podcast va durer 4 heures, donc je m'en bats les couilles. Je vais lancer tous les débats. Mais tu vois, par exemple, bon, il y a la station service là à côté d'ici, mais un couche-tard. T'es déjà rentré dans un couche-tard ?
Non.
Tu vois, parce que c'est un couche-tard.
Non, pas du tout.
Un couche-tard,
ouais,
c'est genre.
C'est le petit hibou, là.
C'est le genre, le super rude des dépanneurs. C'est normalement, un dépanneur, tu rentres, c'est crasseux. Il y a des trucs de. Il y a des packs de bière entassés. Mm-hmm. Le mec, il te dit pas bonjour. Il y a une vitre en plastique devant. Tu sais, tu rentres, t'es un peu pas bien. T'es en mode, oh, tu croises des pirates dedans, ils ont qu'un œil. Il y en a une jambe de bois. Le couche-tard, c'est en mode le super rude, tu vois, genre. Hyper lisse, tout est blanc, t'es à l'hôpital, c'est bien calé, là, les bières, là, bien tout au frais, etc. Le mec, il te dit bonjour. Le mec, il appuie sur un bouton pour t'ouvrir la porte, c'est en mode zzz, comme si tu rentrais en zonzon, tu vois, parce qu'il sait qu'il se fait agresser souvent.
Ouais, bah ouais, ouais.
Et en France, t'as pas ça. T'as les épiceries nues, c'est toujours un peu crasseux, mais t'as jamais le super
ouais,
rude de l'épicerie nue.
C'est pareil, l'épicerie nue à 1h du mat, c'est Finex, quoi. En tout cas, chez nous.
Les épiceries
ouais,
nues,
c'est ça, c'est fini,
À Rennes ?
Ouais, bien sûr.
À 1h du mat, il n'y a plus d'épicerie nue.
Enfin, à 1h du mat.
T'en as pas ouvert toute la nuit ?
Et avant de. Jusqu'à 3h du matin, je contredis les propos de ce monsieur.
On n'a pas beaucoup quand même. Putain,
on a notre fact-checker qui est là.
Moi, je suis le fact-checker de la soirée.
Il y a une différence entre le mec qu'à la boutique fermée, tu l'appelles, il habite au-dessus, il descend, il ouvre la boutique spécialement pour toi parce qu'il sait qu'il va se faire un billet de 60 boules. T'as pas une culture comme ça, tu vois, genre du dépanneur qui est ouvert à la nuit.
Ok, ça me va,
non,
va. Argument accepté,
Les gars qui ont ouvert couche-tard, le gars qui a ouvert couche-tard, parce qu'on est parti de culinaire à parler de dépanneur, mais en même temps, chez un dépanneur, c'est censé aussi te dépanner de la bouffe. La plupart du temps, qu'est-ce que tu trouves ? Des chips, et de la bière, et du soda.
Ouais. Où tu veux en venir avec ça ?
Juste que le gars qui a fait fortune avec les dépanneurs couche-tard, il a fait une réelle fortune. C'est un des plus gros milliardaires.
C'est des meilleurs entrepreneurs québécois. Quoi.
Des Québécois. Et en effet, il a essayé de racheter Carrefour. Et finalement, c'est Carrefour qui le rachète.
Vous connaissez bien la story de ce gars-là, parce que moi, je ne le connais pas. Et je me dis, qu'est-ce qu'il a fait pour que couche-tard devienne un truc emblématique ?
C'est
que,
ça, franchement, frérot.
Est-ce que c'est une enseigne qui est si vieille ou est-ce que c'est une enseigne qui a genre... 20-30 ans, ou c'est une enseigne qui est vraiment vieille.
En fait, c'est Alain Bouchard qui a amorcé ses activités en 1980 avec l'ouverture de son premier dépanneur à Laval au Québec. En 1985, il fait l'acquisition de 11 magasins. Donc, on est 5 ans après l'ouverture de son premier dépanneur, en 85. L'acquisition de 11 magasins dans la région de Québec portant la bannière couche-tard. Et en tout cas, le bref, aujourd'hui, le dude règne en total maître sur les dépanneurs.
Le milieu de la nuit.
Sur l'épicerie game.
Sur l'épicerie game. C'est le boss de l'épicerie game. Big up à toi. Merci Martin Bouchard de nous avoir...
Merci Martin Bouchard de nous avoir
donné
aidé.
De l'argent pour cette chronique.
Oui.
Qui a commencé sur la gastronomie québécoise et qui a fini sur toi, bien évidemment. Alors... On passe tout de suite à un deuxième sujet, les petits amis.
Ouais.
Sujet mystère dont François voulait nous parler. En fait, François nous a parlé d'un truc particulier. Attention, je démarre le jingle. Jingle.
Ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Sur les réseaux sociaux.
Ils arrivent.
François, tu voulais nous parler d'un couple. Alors qu'il nous a sorti, il nous a sorti une news assez exceptionnelle semaine passée.
On était posé au chalet parce qu'on est parti au chalet avec mes frangins, puisque c'est mon frangin qui m'héberge et qui fait cette putain d'émission de radio qui est terrible. Et voilà, donc on était au chalet, il y avait un jacuzzi comme dans tous les chalets du Canada.
Tous,
il n'y en a pas un qui n'a pas un putain de jacuzzi.
Vous avez un chalet, vous n'avez pas de jacuzzi, il n'est pas vraiment un chalet.
C'est 1000 euros d'amende.
Voilà, ils prennent des amendes.
Jacuzzi, pensez-y.
Donc on était dans ce jacuzzi-là, et puis on a vu des chevreuils, des trucs comme ça fous en face du lac. Et moi, ça m'a rappelé une histoire, ça m'a rappelé l'histoire de... Et c'est hyper glauque. De ce que je veux dire, hein. Je vais passer pour un membre de la famille Adams, c'est sûr, mais en vrai non. Genre, c'est un couple qui à Dubaï a fait sa lune de miel et qui a pris un bain comme un jacuzzi, un bain chaud, avec que du champagne à l'intérieur du bain.
Chaud le bain.
Chaud le bain. À un moment donné, ils ne sont pas réussis à se dire « Non, on va trop loin dans notre larsouille. » Les mecs, ils étaient déjà trop bourrés. Ça devait être 48 heures sur Dubai Airlines qu'ils étaient sous. Ils sont arrivés dans l'hôtel, ils ont dit « Nous, on voudrait un bain de champagne. »
Chaud, s'il vous plaît.
Chaud. Et chauffez-le, s'il vous plaît. À la bougie, s'il le faut, mais vous le chauffez. Et du coup, les mecs se sont mis dedans. Enfin, le mec et la meuf, ils sont morts. Ce couple-là est mort parce que l'alcool est arrivé dans leur port. De peau. Et voilà.
Et ils ont été trop bourrés, en fait.
Ils étaient trop bourrés dans leur bain. Ils se sont juste assoupis dans leur liche.
Ah ouais, ils se sont bourrés par la peau, quoi.
Ouais, exactement.
Comme les gars qui se mettent des tampons de vodka dans le cul pour être bourrés.
Exactement, sauf que là, c'était puissance 1000 puisqu'ils en sont morts. Je le répète encore. Okay, ouais, faites attention, ne vous baignez plus jamais dans un bain chaud
de champagne.
D'alcool quel qu'il soit, ça sera du champagne si vous êtes riche, autrement ça sera de la Zubrowska tirée au Leclerc du coin, t'sais. Mais
franchement, la Zubrowska que... c'est quand même assez luxe pour un truc de clochard. Bah je sais pas, c'est une herbe de bison dedans.
On t'arrache une pauvre herbe, toi.
Un bison.
On l'a. Déjà, le mec. Imagine les qualifications.
C'est pas une herbe qui traîne partout, c'est une herbe qui appartient à un bison.
Je suis parti demander au un mec. C'est son travail tous les jours, il va chercher l'herbe.
Il se fait courser par des bisons.
Je dois rapporter de l'herbe pour Zubrowska.
C'est sa mission.
Voilà. Dans les jobs de merde.
Donc on ne recommande pas. Cependant, je suis parti regarder aujourd'hui la news, si c'était vrai. Et en fait, ça se propose, des bains de champagne. Alors si ça se propose, quelle est la dangerosité du truc, tu vois?
La dangerosité, elle serait que c'est plus ou moins du champagne. Est-ce qu'ils l'avaient fait chauffer, par contre, leur alcool? Parce que c'est ça qui est important dans les
soins. Je crois que tu peux choisir la température.
En fait, il faut le chauffer. Si tu choisis de le chauffer, bah, en gros, un bel alcool froid, tu te baignes... Ouais, je sais pas ce que ça fait.
Un bête alcool froid, là, tu te baignes sans problème.
Un alcool chaud est dangereux pour la santé. Ne chauffez jamais votre alcool.
En tout cas, et du coup, donc je regarde ça, donc je vois qu'ils proposent des bains au champagne à Paris, je pense dans des hôtels. Et donc je suis parti en pensant à cette mort très conne. Et ben je me suis dit putain, mais c'est vrai que c'est vraiment très con comme mort. Mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres gens.
Tu as regardé les Darwin Awards.
Je suis allé regarder un petit peu les Darwin Awards.
Ah, donc on passe en. J'adore les Darwin Awards.
On passe en jingle jeu. Je vais avoir besoin de votre attention. C'est parti.
Un jeu excitant.
C'est non. Boîte à boîte et on est au jeu des Darwin Awards.
Et oui, les Darwin Awards, parce que comme vous le savez, il y a des couples complètement teubés qui peuvent se prendre des bains de champagne chaud et mourir parce qu'ils s'endorment dedans. Et donc je voulais savoir si vous étiez assez doués pour pouvoir déceler si ces morts un petit peu insolites ou incongrues étaient vraies ou fausses.
Ah, j'adore les vrais ou faux.
Alors messieurs, en 2009, en Caroline du Sud, un malfrat qui était en train de braquer un magasin est mort étouffé après s'être peint de la figure avec de la peinture en spray pour que personne ne le reconnaisse.
C'est vrai.
C'est vrai aussi.
Pour l'équipe. Caroline du Nord, c'était trop précis comme truc.
Trop précis, ouais. C'est vrai. La deuxième histoire, le petit pois. En 1886, lors d'un mariage, un homme est mort en tentant de se rentrer un maximum de petits pois dans les narines. Il a amusé la galerie, mais n'avait pas fait attention. Un des petits pois est resté germé dans sa cavité nasale et il lui a perforé le cerveau.
C'est vrai.
C'est faux.
C'est vrai. Je le dis à 100%. Moi, je dis François dit à force.
Tu veux pas nous le dire en suédois directement?
Skål.
Skål.
Eh bien, c'est totalement faux. Alors, la pompe funèbre, en 1899, le président de la République française, Félix Faure, mourut d'une crise cardiaque à l'Élysée. La cause du décès, un coït buccal pratiqué par sa maîtresse.
C'est vrai.
C'est faux.
Ah si, il faut que tu t'exprimes, François. Il y a des points qui sont en train de se marquer pour l'instant.
C'est vrai.
C'est totalement vrai. En fait, il a été retrouvé agonisant et sans son pantalon, la main crispée dans la chevelure de sa conquête. Donc je sais pas comment il a été retrouvé, tu vois, genre si la meuf allait essayer de se débattre.
Depuis tout ce temps, tu vois, elle essayait de partir,
mais elle avait sa graine dans la bouche, puis tu sais, genre elle était juste comme ça en train d'appeler à l'aide avec un truc dans la bouche, tu vois. Les mecs sont arrivés, ils ont vu
que le mec est tombé, quoi. Il a dû...
D'ailleurs, ça a fait rire beaucoup de monde à tel point qu'on a surnommé Félix Faure, et là vous devez me dire si c'est vrai ou pas, on l'a surnommé pompe funèbre.
Non, mais je pense que c'est vrai.
Oui, c'est vrai aussi. Il a voulu vivre César et il est mort pompé.
Non, César Pompée, c'est faux, mais...
Non, on l'a pas nommé Pompe Funèbre. Moi, j'aurais aimé l'appeler Pipe Funèbre.
C'est totalement vrai. Il s'est fait vraiment appeler, surnommé Pompe Funèbre. Les toilettes électriques, messieurs. En 1989, le prisonnier américain Michael Anderson Godwin est mort d'électrocution en tentant de réparer les écouteurs branchés à sa télévision alors qu'il avait les fesses posées sur sa toilette en métal. Ironie du sort, condamné pour meurtre, il avait échappé à la chaise électrique lors de son procès.
Ouais, je pense que c'est vrai.
C'est faux.
Il y a des toilettes en métal. Il y a quand même vachement de précision par rapport aux faits. Et je suis tenté de dire que c'est vrai. Je suis tenté de dire que c'est vrai parce que c'est une...
C'est parce que c'est vrai.
De vraie info.
De vraie info, en effet, c'était vrai. Désolé. Voilà.
Est-ce que vous parlez des petites toilettes japonaises qui sont installées à travers tout le pays
C'est pas ça qui me fait le plus. Moi, c'est peut-être des pisses.
Ici.
Tu veux dire, est-ce qu'on parle de ça là maintenant ?
Est-ce qu'on peut parler des toilettes ? Moi, ça m'a un peu fait bizarre.
Et c'est où que t'as vu des toilettes japonaises à part chez Etienne ?
Bah, chez mon frère, ouais, voilà.
Qui sont installés à travers tout le pays, il a dit.
Ils sont installés.
Je me déplace avec mon petit matériel. Bonjour, vous connaissez les toilettes ?
Il va au McDo, il pose son petit spray à
moi. Moi, je suis comme ça. Je vois, je crois.
Tout voilà. Le pays.
Ça, après je ressors, je dis à François, tu vas aller aux toilettes, vas-y, j'ai installé le truc.
Le premier soir, j'arrive, je veux faire ma petite affaire, et puis je me retrouve avec un jet d'eau, mais qui est fort. C'est pas un jet d'eau mou, je m'aperçois. Et j'ai été surpris, je dois dire. Hyper surpris par l'intensité du truc, par le fait que tu maîtrises un peu, genre, t'appuies pas sur un bouton de la chasse d'eau. T'as genre différents niveaux de boutons.
You go for a ride.
Un peu, ouais, c'est ça. Genre, tu choisis un peu à quelque chose, tu vas être mangé, tu vois. Genre, with soap, without soap. Tu vois, je connais.
Mais d'accord. Et mais à partir de quel moment t'en es arrivé à la conclusion qu'il y en avait à travers tout le pays ?
Bah parce que je me suis dit, si le mec achète ça au bout de tant d'années à arriver au Canada, je pense que c'est un truc qui est quand même, genre, il l'a pas trouvé tout ça, c'est un truc qui va être quand même répandu.
Backstory, Etienne.
Voilà.
Alors, par rapport à l'histoire du bidet.
Du spray anal.
Du bidet.
On va appeler ça un spray anal, c'est beaucoup plus fun.
Appelons ça le spray anal. L'histoire du spray anal... C'est ni plus ni moins cette marque confectionnée en effet à Montréal qui s'appelle Tushy en fait, qui a fait...
La marque est...
Tushy ouais, ça s'appelle vraiment Tushy, T-U-S-H-Y.
Super.
Et qui
comment t'as connu Tushy ? Ton premier rapport au Tushy ?
Grâce, comme tout bon navigateur d'internet, je me suis fait avoir avec des petites publicités. Mais en fait... J'ai pas acheté un Tushy, ok, qu'on soit d'accord. J'ai pas donné.
J'ai pas donné. J'ai acheté
Tushy. Je vous jure, monsieur l'agent.
Je vous jure.
Pour c'est 100 balles. Pour tout ce c'est 100 balles. Moi, j'ai payé 30 balles, ok. Ok. On me nique pas, moi.
T'as acheté de la para.
J'ai acheté le faux Tushy, tu vois.
T'as acheté du plastique.
Mais j'ai pris le petit morceau en bambou pour faire semblant parce que je trouvais ça joli. voilà, tout simplement, en fait, ils ont fait une grosse campagne publicitaire sur les réseaux, puis j'ai vu le truc passer, j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai vu qu'il y avait des youtubeurs qui en parlaient, qui en faisaient la promotion, l'apologie, j'ai rencontré un mec dans un tournage dernièrement qui m'a dit, moi, à côté des tournages, je fais ça, c'est-à-dire que c'est ma compagnie.
Comment ça, il y a une communauté.
C'est exactement
ça. Il y a une communauté du Tushy.
Tu peux custom ton truc, tu sais, c'est comme les crocs sans
Je te jure que lui, il proposait...
Tu le mets à quelle vitesse, toi? À 6. Mais la 8, tu verras.
Moi, il y a des flammes. Moi, il y a des flammes dessus. Moi, il y a des petites flammes dessus.
Et je te jure, je...
Mais lui, il flambe. Et genre il pouvait allumer sa toilette pour la chauffer. Et en fait, il avait un système qui était différent de ceux que j'avais été magasiné. Parce que moi, ça m'intéressait, en fait, de ne pas avoir forcément un jet d'eau froid.
François, pour te démystifier un peu le truc, je me demande si quand t'es allé au Tim Hortons pisser, t'es revenu, t'as dit, il n'y a pas de jet.
Après, j'étais déçu. Franchement, qu'il n'y ait pas ça installé partout parce que je voulais différentes installations. Je voulais avoir différentes marques pour moi.
Ok, les gars, on se fait une petite pause. Pour vous, ça aura l'air de rien. Pour nous, ça aura l'air de tout. On se retrouve dans un instant. Puis, on va jouer à un nouveau jeu. En fait, au même. À tout de suite.
La boîte à boîte, c'est comme la boîte à camembert, sauf qu'il n'y a pas de camembert ni de commentaires. Il y a juste du prosélytisme français. Bienvenue à la boîte à boîte. On s'est arrêté sur un jeu avec des questions. Il fallait dire si c'est vrai ou si c'était faux. Et maintenant, on écoute la prochaine question.
Bonjour, je suis Étienne. Je suis le livreur de la prochaine question. Sans les mains. Voici son intitulé. En 1987, un parachutiste de Caroline du Nord avait pour mission de prendre ses collègues en photo lors de la chute libre. Seul problème, il a tout simplement oublié de mettre son propre parachute. Il en est mort.
Ouais. C'est faux.
Moi, je dirais à chaque fois qu'il y a Caroline du Nord dans l'intitulé, c'est que c'est vrai. Donc, vrai, parce qu'il y a Caroline du Nord.
Ouais.
C'était vrai.
Ah, ouais. Il est incapable d'inventer Caroline du Nord, Étienne. Il sait même pas qu'il y a une Caroline du Sud, je pense.
Bah, ça souchette.
Retour de bâton. Jean-Baptiste Lully, célèbre compositeur devenu surintendant de la musique royale de Louis XIV, est mort de la gangrène après s'être violemment frappé l'orteil avec une longue canne lors d'une répétition.
Non, faux.
Vrai, il y a trop de détails.
Faux. Vrai.
Faux.
Beaucoup trop de détails. Putain, je suis content, en gros, que ça marche aussi bien. Eh bien, c'est totalement vrai. Désolé pour ta franchouille. Atlantis. En 1938, dans l'Idaho, un homme persuadé de pouvoir respirer sur l'eau a demandé à ce qu'on le leste de pierres énormes et qu'on le laisse couler dans l'océan. Problème, après une heure d'attente, des plongeurs sont partis sonder le terrain et il semblerait que l'homme soit tombé dans une faille sous-marine. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
C'est faux.
C'est vrai.
Je dirais que c'est...
Vrai. attendez.
Vrai. Ou vrai.
C'est totalement faux, bien joué, Adri.
Ouais, c'est ça.
C'était totalement faux. Parce qu'en fait, déjà, j'ai réussi à mettre dans l'Idaho. Alors, je suis content.
Ouais, on retient
avec une
Idaho
date en 1938. Et en fait, il n'y a pas de mer dans l'Idaho. En fait.
Ouais.
Donc, faille sous-marine, impossible. Voilà, c'était le petit indice géographie que j'avais distillé par-ci, par-là. Je suis vraiment allé me faire chier sur la carte. J'ai fait, allez, je vais choper un état où il n'y a pas de mer. Et on va voir. Et on va voir s'ils sont forts.
Bon, on n'est pas du tout.
La Californie.
Ah non.
Là-haut. Adelir Antonio de Carli, un prêtre brésilien, est mort sur une chaise attachée à des centaines de ballons gonflés à l'hélium.
Ah, mais oui, c'est connu, ça. Parce qu'il est tombé, ils ont explosé.
C'est l'histoire de là-haut,
ouais, c'est ça. C'était le titre que j'ai dit au début.
Moi, mais c'est là-haut qui dure 10 minutes. Ah non, t'as pas en fait, il est mort comment, en fait
en fait, à plusieurs centaines de mètres...
Et puis le petit garçon, hein, c'est, y a pas tout.
Et le grand-père.
En fait, une fois arrivé tout en haut, à plusieurs centaines de mètres, il a appelé, il a dit... Est-ce que vous pouvez m'aider à... Est-ce que vous pouvez m'aider à me servir de mon GPS? Et en fait, bah, ils n'ont pas réussi à l'aider. Son corps a été retrouvé 2 mois plus tard.
Waouh.
Ouais, son... Bah non.
Bah non.
Et je me dis, le mec, les gens l'ont vu partir sur sa chaise comme ça, tu vois, genre en mode...
Salut.
Tu sais, il avait l'air sûr, ce mec-là, de son projet, tu vois. Donc le mec est parti
petit
comme ça.
Petit casque et tout.
Exactement.
Il était déter.
Totalement. Totalement sûr de lui. Le mec est parti... Et puis, quand ça a commencé à déconner, moi, je me dis, à ce moment-là, les gens ont fait quoi? Si son corps a été retrouvé 2 jours plus tard, c'est qu'à un moment donné, les gens ont fait « Ok, donc là, il est parti. » Tu sais, comme les mecs qui partent dans l'espace, tu vois, au bout d'un moment, tu les vois plus, tu fais « Bon, bah, ça y est, c'est maintenant, bah, bon courage, les gars, tu vois. » Est-ce qu'ils se sont dit la même chose? C'est « Bon, bah, bon courage, mec,
mais
toi. »
Mais moi, surtout, c'est
ils
le
se sont barrés.
C'est et le mec qui était dedans, à quel moment il s'est dit « Ça commence à être trop, il faut que j'appelle les secours. »
Ouais. C'est totalement ça. C'est un peu, les gars, j'avais pas prévu. Puis tu sais, tu commences à percer les ballons un à un, et tu t'aperçois que t'es toujours à 2000 mètres d'altitude, il t'en reste que 4, tu fais merde. Ça craint.
Peut-être tombé d'un coup.
C'est un peu ça qui est chiant. Et je me dis aussi, le dernier mec qui reste sur la place du village, tu sais, une fois que tout le monde s'est barré, tu vois. Moi, j'étais un peu ce gars-là quand j'étais gamin, tu sais, qu'à la kermesse de l'école, on faisait partir des ballons en l'air, tu sais, avec des messages à la con, tu vois. Et genre. Tous les ballons s'envolent et puis au bout d'un moment, bon, t'en as plus que 4-5 dans ton champ de vision et là tout le monde se barre, les familles se cassent et tout. T'as toujours 3 goliots, t'sais, avec la tête en l'air comme ça, en train de regarder le dernier ballon qui va s'envoler ou qui va péter, tu sais, dans le lointain, tu vois. Est-ce que tu crois qu'il y a un mec qui l'a regardé partir comme ça?
Il a vu.
Exactement ça.
Excellent. Super. Bon bah tout feu tout flamme. Gary Allen Banning, un Britannique de 43 ans. Mort brûlé vif. Un jour, il a bu de l'essence par erreur. Surpris par le goût dégoûtant de sa boisson, il a recraché le liquide. Après, il s'est allumé une cigarette. Et ben bah, voilà.
Ok, c'est totalement faux.
C'est faux.
C'est vrai. Vraiment un dude. Gary Allen Banning. Il aurait pu s'appeler Gary Allen Burning. Je fais des petits jeux de mots en anglais pour montrer que je sais maîtriser cette langue. Le mec a quand même...
Mais comment tu t'enflammes avec une clope? Ah, parce qu'il en avait partout, il a craché partout.
Ouais, c'est ça. En gros, ce qui s'est passé, c'est que le mec, il a fait, il a bu son truc, il s'est craché dessus, genre, ah, putain, c'est de l'essence. Je rêve en con. Allez, une petite clope. Sauf que le mec, s'il en a vraiment bu, imagine, j'ai imaginé le tracé de la flamme à l'intérieur de son estomac. Brûlure d'estomac, gaviscon. Ça marche pas. Le coq de la mort. En 2011, en Californie, José Luis Ochoa est mort poignardé par un poulet lors d'un combat de coq. Le poulet auquel une lame de rasoir avait été attachée a foncé sur lui, causant de graves blessures. Transporté à l'hôpital, il mourut quelques jours plus tard.
C'est tellement c'est vrai, fou. Mec. C'est fou. Moi, je vis dans un monde où les combats de coq sont aussi dangereux que ça. Ouais.
Moi aussi, ouais.
Ouais, bah, c'est totalement vrai, les gars. Vous avez raison.
Je me dis, le mental de ces bestiaux-là, tu vois. Le mental, c'est pour endurer
Est-ce des que tu combats. Crois qu'il il l'a combattu après le coq? Il était acclamé. De... Mes amis, en 2007... Anderson Spasvik a tenté de se suicider en avalant des doliprane périmés. Il en avait avalé une centaine. Trouvé par sa conjointe inconscient, il est emmené à l'hôpital où les médecins lui expliquent qu'il s'est sauvé la vie puisque les médicaments ont permis de lui éviter une crise cardiaque. Il tentera une nouvelle fois de s'enlever la vie en sautant de sa chambre d'hôpital, mais tombe sur un patient en fauteuil roulant et le tue sur le coup. Donc ouais, en gros, c'est la mort, c'est la mort de l'autre gars. Tu vois.
C'est vrai.
Ah, c'est la mort de l'autre gars. Ouais, moi, c'est vrai.
Non, mais mec, manque de peau, quoi. Moi, je dis que c'est faux.
C'est totalement faux.
Putain, t'as inventé tout ça. Je ne pensais pas que t'étais capable
de faire. Je vous la relis, les gars. En 2007, Anderson Spasvik a tenté de se suicider en avalant des doliprane périmés. Il en a avalé une centaine. Trouvé par sa conjointe inconscient, il est emmené à l'hôpital où les médecins lui expliquent qu'il s'est sauvé la vie puisque les médicaments lui ont permis d'éviter une crise cardiaque. Il tentera une nouvelle fois de s'enlever la vie en sautant de sa chambre d'hôpital, mais tombe sur un patient en fauteuil roulant et le tue sur le coup. Au début, j'étais là. Est-ce que le mec était en rémission d'un cancer? Il sortait et tout, il était là. C'est le premier jour et tout, je peux vraiment sortir. Yeah. Parfait, les petits amis. Alors, ça conclut si bien notre jeu de rigolade absolue.
C'est-à-dire notre podcast en mode t'allais le cancel tellement ouais. C'est long.
Non, non. On enchaîne tout de suite.
Non.
Avec un petit sujet dont va nous parler notre ami Adrien. Jingle, sujet Adrien.
C'est le sujet. Le sujet Adrien.
Ok.
Un petit bruit de tic-tac derrière, c'est pour Christopher Nolan Dunkerque.
Je suis tombé au gré de mes pérégrinations sur YouTube. Avez-vous déjà entendu parler d'une fondation qui s'appelle la fondation SCP?
Jamais de ma vie.
Ok. En fait, c'est un site d'écriture collaborative et je suis tombé là-dessus et tout en regardant une vidéo d'un mec qui expliquait vraiment la démarche de ce site internet, parce qu'à la base, c'est un truc qui est apparu sur 4chan, tu vois. C'était genre des mecs qui racontaient des histoires, tu vois, sur des entités, par exemple, mais des trucs assez mystérieux et toujours sur un ton très froid, très clinique, tu vois, genre comme si c'était des dossiers, de prisonniers ou de trucs médicaux, tu vois. Et en gros, les gars, ils ont fait grossir le truc en faisant un réel univers, tu vois. Donc, du coup, ils ont créé une société, en fait, une fondation qui confine en fait tous ces sujets-là. Et en fait, il y en a des milliers. En fait, ça peut être des objets, des êtres humains, des monstres, des trucs comme ça, qui ont des pouvoirs sur le monde réel, tu vois. Mais c'est pas forcément des trucs super graves. Ça peut aller de trucs vraiment cataclysmiques, tu vois, au point qu'on a carrément des monstres gigantesques, tu vois, style Cthulhu, tu vois. Tu vois, des trucs vraiment balèzes qui sont confinés dans des trucs, t'as pas idée, tu vois, dans d'autres dimensions, mais qui sont contrôlés par cette fondation-là. T'as des trucs vraiment malades. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est un site d'écriture participative. C'est-à-dire que, en gros, n'importe qui, toi, moi, on peut écrire sur un SCP. Donc, en gros, le SCP, c'est quoi? C'est l'entité, tu vois. Et donc, du coup, tu peux le catégoriser, puisque dans le site, ils ont bien foutu ça. Ils ont catégorisé, en fait, les SCP. Donc, suivant, en fait, le niveau de dangerosité du bordel, tu vois. T'as toute une équipe de scientifiques qui tournent autour, t'as des équipes de sécurité, et tout ça, ça fait partie de l'univers dans lequel tu peux justement pondre une nouvelle, tu vois, en t'inspirant de tous ces codes-là. Bah toi, après, tu crées, tu leur soumets ça, et du coup, ça te donne une petite histoire. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est que le truc a tellement pris d'importance que c'est devenu une référence dans le monde du jeu vidéo, dans le monde du cinéma, et dans le monde de la BD aussi, tu vois, il y a plein de références partout. C'est une sorte d'organisation un peu à la Made in Black, tu vois. Du coup, voilà, tu tombes sur des...
Je peux te donner... alimenter que par n'importe qui, comme sur un forum ou ce genre de choses. Quoi.
C'est quoi le meilleur truc que tu as vu dessus?
Ben, en fait, j'en ai plusieurs. Et j'ai des petits exemples là qui sont assez cool, tu vois. Genre, par exemple, tu vois, tu en as un, c'est une statue humanoïde qui est en béton armé avec des traces de peinture sur la gueule, tu vois. Et elle reste immobile tant qu'elle est observée directement, mais elle s'attaque aux gens en leur brisant la nuque dès que le contact visuel est rompu. Elle est décrite comme extrêmement rapide et peut se déplacer de plusieurs mètres le temps d'un clin d'œil, tu vois. Donc, en gros, pareil, pour confiner ce, ce truc-là, si tu vas sur le site, tu vois, tu as la référence. Lui, c'est le SCP-173. Tu vas avoir plusieurs articles de scientifiques qui t'expliquent, tu vois, de manière super précise et tout ça, que, en fait, ils ont été obligés de le mettre dans une pièce capitonnée, qu'il y a au moins trois agents qui doivent ouvrir la cellule en même temps, que chacun doit se relayer, parce que dès que tu clignes des yeux, le truc, il avance. Donc, faut que ton pote, il soit toujours aux aguets. Mmh. Sinon, le truc te défonce, tu vois. T'en as un, c'est, par exemple, une machine à café qui peut servir à n'importe quelle substance liquide ou susceptible d'exister sous forme liquide, tu vois. Alors, une machine à café qui pourrait te faire couler du béton, aussi bien que du Coca-Cola, enfin, tu vois. Il y a des délires un peu magiques.
Ouais,
et tout, tu
ou
vois.
De l'or fondu. Ou,
ouais, voilà, ouais. T'en as une, tu vois, c'est une maison dont les fenêtres sont en permanence couvertes de buée. Écrire sur la vitre permet de communiquer avec une entité issue d'une autre dimension, possédant elle aussi des fenêtres ouvertes, couvertes de buée. Cette entité est très hostile envers les êtres humains, mais ignore que les membres de la fondation sont en fait humains, tu vois. Enfin, en gros, t'es dans un délire vraiment très méta, mais ça ouvre vraiment le champ des possibles. Et moi, c'est ce que je trouve génial dans ce truc-là, tu vois. C'est que quand je me suis penché dessus, je me suis dit, mais putain, mais c'est génial qu'il y ait autant de gens, tu vois, qui se soient connectés sur, sur un délire comme ça, tu vois. Parce que c'est vraiment, c'est super important. Et donc, quand tu vas sur leur site internet, c'est super facile d'aller dessus, tu vois. Tu vas sur leur site et en gros, tu tombes directement sur une page. Donc, c'est marqué « Attention, la base de données de la Fondation est classifiée. L'accès au personnel non autorisé est strictement interdit. Les contrevenants seront traqués, arrêtés et emprisonnés, tu vois. » Donc, du coup, ça te donne un petit peu le ton, tu vois. Ils font des thèmes, tu vois. En ce moment, bon, c'est sur l'Halloween. Donc, en fait, il y a des thèmes qui sont en corrélation avec ça, mais... C'est vraiment super intéressant. Et du coup, là, tu peux, pareil, voguer à travers le truc. Il y a vraiment une grosse base de données. Et du coup, tu découvres des monstres, des trucs fantaisistes complètement hallucinants. Voilà, c'est un univers que je voulais...
Ils peuvent alimenter toutes sortes d'esprits créatifs et tout qui voudraient servir de quelque chose et tout. Juste aller piocher, tu vois, dans l'imaginaire collectif, quoi. Ouais. Parce que finalement, c'est ça. Ce sont des gens qui participent
au truc. Mais c'est eux qui disent le monstre de base.
Ben non, ça c'est toi qui l'invente.
Toi qui l'invente.
Le gars que dès que tu cliques des yeux et te nique ta mère, c'est des gars qui l'ont inventé ou c'est le site?
Non, c'est des gars qui l'ont inventé.
Ah, tu peux proposer des trucs et après, par-dessus, gens écrivent des articles sur les monstres et
tout. Oui, c'est ça. Après, tu vois, genre, t'as des...
Mais les trucs SCP et tout, qui c'est qui donne les notes?
Les notes, c'est-à-dire à ta nouvelle? À ce que t'es
qui c'est que t'as du niveau de dangerosité.
Ah, bah ça, c'est toi qui le décides quand tu crées l'histoire de ton personnage. Mais du coup, tu dois t'inspirer de ce qui existe.
Les
modos
du site, ils font rien en fait. C'est juste un site.
En fait, les modos du site, ils sont quand même là parce qu'en gros, ta nouvelle, tu vois, elle peut être mise en avant ou pas mise en avant. Et si ça respecte pas certains codes, ils peuvent te tâcher quand même. Donc en fait, il y a une grosse communauté. Donc voilà. C'était un univers que je voulais partager avec vous parce que voilà, je sais que vous aimez bien aussi le cinéma et puis ça se rapporte directement à ça.
C'est évident que ça s'y rapporte directement. Si vous aviez une SCP, vous les gars, à écrire, ça serait laquelle?
Bah écoute, moi, ce serait un truc tout mignon, tu vois. Genre comme Gizmo dans les Gremlins, tu vois.
Ou un petit... Toi, tu kifferais inventer un petit personnage comme ça, là?
Un bébé lapin, tu vois. Mais ultra vif.
Mais un bébé lapin avec des poils ou...
Avec des poils. Mais ultra vif, tu vois.
Ok.
Genre un...
Trop vif pour le voir.
Tu le vois en mode, oh, il est mignon le bébé lapin. Et puis, pam, tu le vois plus. Et en fait, lui, il se nourrit de tes cordes vocales. Donc, en fait, il vient te choper à la gorge pour essayer de te gratonner jusqu'à choper tes cordes vocales, tu vois.
Ok,
et après ? Tu vas me dire, ouais, tu prends ta main, tu le jettes et tout. Ouais. Le problème, c'est qu'il est comme Wolverine, tu vois, il se régénère tout seul.
Oh.
Donc, à chaque fois, spac ! Il revient t'attaquer et tu le jettes et il revient.
Ok, donc s'il a fait de toi sa cible, c'est mort, quoi.
Il veut tes cordes vocales, il mange tes cordes vocales, donc il te tranche la gorge jusqu'à tes cordes vocales, tu vois.
Il prend juste les cordes vocales, toi tu meurs ou pas?
Une fois que il a mangé tes cordes vocales, il s'en va. Si jamais tu meurs
est-ce
pas,
qu'il sait parler? Est-ce qu'il a ta voix après?
Non. Mais il fait des P qui sonnent comme ton rire.
Oh.
Comme ça, ouais, voilà, Adrien.
Tu sais qu'il y a quand même, tu peux vraiment balancer des trucs gogol. Il y a un SCP connu, c'est quand même un bunker nazi qui est caché dans la cavité nasale d'une nana, quoi.
Ah ouais.
Et ouais, les mecs sont allés jusque là, tu vois. Mais genre le truc est trop bien fait, tu vois, c'est-à-dire que t'as un rapport et tout avec les mecs qui t'expliquent que oui, en l'an 2005,
Brigitte, machin truc, est allée se plaindre dans une clinique et tout, qu'elle avait une forte odeur de brûlé dans le nez et tout. Ils ont cherché, machin, ils n'ont pas trouvé. Et puis au final, il y a un des médecins qui a fait tomber genre un scalpel ou un truc comme ça dans son pif. Le truc, on n'est jamais ressorti, tu vois. Ils ne l'ont pas retrouvé. Du coup, ils ont commencé à trouver ça bizarre. Et en fait, les membres de la SCP, ils sont partout, tu vois. Donc il y a des docteurs d'hôpitaux, des directeurs de trucs d'industrie et tout.
Qui est derrière tout ça? Parce qu'il y a bien, un président, hein, quelqu'un qui chapeaute le truc.
On ne sait pas trop non plus.
Un
tu
mec
vois,
dans un fauteuil de dos avec un chat sur les genoux.
C'est ça. Et du coup, même sur leur site, en fait, sur le site officiel donc, de l'ASP, quand tu te balades, tu vois bien que des fois, c'est fait exprès, en fait. Mais tu as vraiment des trucs qui sont... Il y a des trucs qui sont vraiment effacés, tu vois. Genre, du coup, tu peux pas lire ce qu'il y a au-dessus, mais c'est fait exprès pour te, tu vois, faire okay, style okay. que c'est un dossier qui est sorti d'une disquette. Donc voilà, ouais, c'est
Il n'y a jamais mystérieux. Eu d'adaptation cinématographique ou...
Bah, en fait, il n'y a pas vraiment eu d'adaptation cinématographique, à part les trucs que je te dis sur YouTube, là, les vidéos qui ont été faites. Et je sais pas si vous avez vu le film La cabane dans les bois, mais en fait, pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus.
Ouais, c'est vrai que c'est ça.
C'est ce qui se rapproche le plus de la fondation, tu vois. Si tu connais le twist de fin, bah voilà.
Bah ouais, c'est une petite idée. Ouais, c'est vrai. Moi, je connais le twist, j'ai la ref. Moi
aussi, j'ai la ref. Mais une blague aussi, en fait, hein, en soi.
N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, hashtag j'ai la ref. Good, bah franchement. Bon. Allez, oui, chers auditeurs, veuillez nous excuser de ce petit souci technique. L'enregistreur a tout simplement tenté de se suicider en sautant de la table. Et nous avons pu le sauver in extremis.
En lui procurant du bouche à bouche.
En lui procurant du bouche à bouche. Et nous pouvons, après 20 veut parle comme ça, vu qu'à la fin.
C'est décidé.
C'est décidé, donc après 20, non. À présent, nous pouvons, en fait, on n'a plus trop de choses à se dire. J'avoue que je suis en face de ces gens-là qui ne m'inspirent que la haine, quelque part. Et ce podcast de A à Z.
Non, mais il faut savoir.
Il n'y avait pas de conducteur. Il n'y avait pas de conducteur.
L'enregistreur a décidé de se suicider.
Nous, il a entendu le podcast.
Nous, on a été désemparés. Qu'est-ce qu'on a fait? On a bu pour oublier.
Ouais.
Là, on a trouvé une solution. Ouais. Parce que quand on est bourré, on est plus créatif. On a trouvé la solution. On a réussi à réanimer l'enregistreur.
Grâce au bouche à bouche, on rappelle.
Exact. Puis là, on se dit, bah ouais, mais mec, on est parti trop loin. En fait,
c'est fini. Tantôt, tu vois. C'est fini. Donc écoutez. On voudrait remercier nos deux invités, Adrien et Franchouille, la fripouille. Et donc, merci les gars. C'est tout pour aujourd'hui.
Bah merci à vous les mecs, c'était trop sympa. Beaucoup de tendresse comme d'habitude.
Très bien, très beau closing.
Mon frangin a une voix très suave, moi un peu moins, mais je vous aime.
Merci beaucoup. Donc, ça conclut cet épisode un peu spécial de La Boîte à Camembert. Non, c'est de la boîte à boîte.
La boîte à boîte. C'est et on se donne rendez-vous très très vite pour un nouvel épisode. Et puis,
de la boîte à boîte.
De la boîte à boîte avec un concept tout nouveau.
Très bien, très beau closing.